France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Collard, j'ai aujourd'hui 72 ans et voilà 66 années complètes que je vais à mon piano chaque matin et je suis pianiste pour l'éternité.
Jean-Philippe Collard, je pense quand même qu'il y a un personnage essentiel dans votre vie qui est votre piano. Il y en a plusieurs. Il y a des pianos d'études et puis il y a l'élu.
Il y a l'élu, oui. Ouais, ouais. Il va très bien ces jours-ci en particulier. Il s'est bien accommodé de la canicule. J'essaye de le protéger au maximum. Je le joue très peu en fait. Je le joue avant les concerts. Je le joue pour me rassurer.
Einstein, oui.
Oui, c'est un Steinway de concert. Et qui a un certain âge. Il a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et c'est un piano que j'ai aimé au premier regard. Il m'a toujours convenu. Alors, vous dire pourquoi, sans doute, parce qu'il a un côté intime quand même. Ce n'est pas un de ces pianos qui crache le feu. Il a la courtoisie de me répondre quand je l'interroge. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, parce que l'interroger, ça veut dire mettre ses doigts le matin ou le soir, peu importe, et puis lui poser une question sous la forme d'une œuvre. Et il répond, et il m'aide beaucoup à confectionner ma sonorité, mes intentions musicales, mon souffle, voilà, c'est un compagnon. Alors, je l'avais pris de temps en temps, je le faisais sortir, le petit, je l'emmenais avec moi, et je le trouvais tellement idéal, quoi, de jouer sur son propre piano. Je suis un peu revenu de cette expérience, d'abord parce que je l'ai faite, comme beaucoup d'expériences, une fois qu'on les a faites, elles sont faites.
C'était c'était la si mineure, c'est ça?
C'était la, vous avez raison, oui, c'était la sonate en si mineure, alors j'avais emmené à la salle Wagram, et puis ensuite, en effet, à la salle Colonne, où j'étais resté, oui, comme une opération complètement folle, 21 concerts de suite, pour jouer, en effet, chaque soir, la sonate en si mineur de Liszt. Et alors là, j'étais avec mon instrument, et ça, c'est une expérience merveilleuse, quoi.
Voilà. Quoi l'idée de jouer 21 soirs de suite?
Eh bien, écoutez, c'est une idée qui apparaît complètement saugrenue, mais que je me suis toujours inspiré des gens du théâtre, et j'ai toujours été très jaloux, parce que c'est par rapport à la loge. Faut que je vous dise ça, quand même. Parce qu'on pourrait parler des loges d'artistes infiniment. C'est quelque chose de déprimant. Généralement, il n'y a pas de fenêtre, allez savoir pourquoi. Bon. Et puis, parfois, il n'y a pas de piano non plus. Donc, il y a un principe de la loge. La loge, vous l'habitez pour une demi-heure avant le concert, et cinq minutes après, puis vous rentrez chez vous, vous allez n'importe où ailleurs, parce que de toute façon, c'est sinistre. Bon. Donc, je suis très jaloux des gens de théâtre qui s'installent. Et puis, vous savez, qui mettent des bouquets de fleurs on mettait beaucoup de télégrammes au mur, vous savez, pour la première, des encouragements. Puis, on mettait ses petits gris-gris. Puis, on a sa petite garde-robe, son petit réfrigérateur avec ses eaux minérales ou ses bouteilles de champagne, peu importe. Et voilà. Et j'ai voulu reconstituer ça à la salle Colonne, qui retrouvait des airs de jeunesse. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire une série de 21 concerts. Allez savoir 21, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que la salle n'était libre que 21 soirs, peu importe. Donc, j'ai trouvé un arrangement avec la salle, j'ai fait venir mon propre piano, puis j'ai fait un petit peu de communication. Et mon principe, c'était de sélectionner donc la sonate de Liszt comme pivot de chaque concert. Et De ce côté-là, l'expérience m'a donné parfaitement raison, parce que pour peu qu'on franchisse le premier portail, qui, comme vous le savez, commence par le grave, les notes graves, les... Bon. Je pouvais partir où je voulais, et chaque soir c'était différent, et la lumière, et les couleurs, et je m'amusais à façonner une sonate de Liszt qui n'avait rien à voir avec celle de la veille, et j'étais... Enfin, excusez-moi ce peu de modestie, mais j'avais le sentiment de faire enfin mon vrai métier, quoi. C'est celui d'interprète, et des gens sont venus. Il y a une dame qui est venue 11 fois. Il y en a qui aiment la musique, hein.
Bâtisseur, entrepreneur, on vous a entendu par rapport au conservatoire dès la fin des années 80. Vous avez aussi des idées de réforme pour le conservatoire, et puis cette idée aussi du concert et de toute la géographie du concert, comment les choses se passent, à qui on parle, c'est quelque chose que vous avez à cœur depuis des années de défendre et de changer, d'essayer de faire qu'on soit peut-être plus proches les uns des autres. Et ces chemins de musique en 2005, c'est cette idée-là.
Oui, il y a plusieurs points. Il y a une nécessité absolue qui rend la chose, une fois qu'elle est faite, très facile, en fait. Il y a tellement de désir, il y a tellement de passion, il y a tellement de besoin. En l'espèce, chemin de musique, c'est un besoin. Le besoin, il est pas très compliqué. Il est de fracturer complètement la cavalcade intercontinentale, et puis de se dire, je me pose quelque part, et puis je vais dans des petits lieux, et puis je vais dans des petites villes, dans des petits villages, puis je fais de la musique pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais entendu un concert, et tout ça. Ceux-là, ils ont besoin d'être servis, parce que les autres, j'ai déjà donné, merci beaucoup. Ça se multiplie par la rencontre avec un personnage qui avait beaucoup d'importance dans la culture, dans la région Champagne-Ardenne, à qui je confie un beau soir, que j'en ai un peu assez de tourner en rond comme ça, que cette vie me fatigue un peu, qu'elle n'a pas trop de sens, que je m'éloigne de ma famille, que je ne suis pas très heureux en voyage, etc. Et je dis incidemment, mon rêve, c'est 15 jours chez moi, dans mes terres, en Champagne, enfin chez moi, quand je dis chez moi, c'est pas chez moi, dans mes terres familiales, et puis j'allais jouer dans les villages. Il me regarde, il ouvre des grands yeux comme ça. Eh bien, mais t'es fou. Ben, je dis non, pourquoi? Ben, il me dit non, ben, c'est très bien, mais c'est quand tu veux, on fait ça quand tu veux. Donc il a mis à ma disposition tout ce qu'il fallait pour que ça soit l'idéal. Alors, il y avait 15 villages, un tous les soirs. Il n'y avait pas une sous-préfecture, hein, pas question. Les places étaient à 5 euros, je crois, parce qu'il fallait payer quand même. C'était ouvert en priorité aux gens du village. Il fallait se libérer pendant une heure, venir à 8 heures, et puis si possible avoir un petit verre de champagne, tant qu'à faire après le concert, rencontrer les gens et tout ça. Et le dîner, c'était chez l'habitant, et puis on dormait où on pouvait, il n'y avait pas d'hôtel forcément dans ces villages-là et tout ça. Donc c'est une vie complètement à l'inverse de ce que j'avais l'habitude de vivre, mais j'étais au plus près du territoire, au plus près des gens et tout ça. C'était au mois de juin, dans la lointaine province de Champagne, que je connaissais mal, c'est-à-dire la Haute-Marne, le confin des Ardennes, et j'ai rencontré des villages merveilleux, et chaque jour je prenais ma voiture, je faisais 30 km, 40 km, le piano était déjà prêt, il était là, et je me trouvais dans une église, dans un château, sous un préau d'école, et puis se rassemblaient là le soir venu, 30 personnes, 80 personnes, 200 personnes, à qui je comptais, quelques épisodes de ma vie d'artiste, et puis je jouais des morceaux. Alors là, j'avais des programmes qui étaient assez simples et des œuvres assez connues, enfin, pouvaient être, des œuvres qui pouvaient être connues en tout cas. Et j'ai trouvé la démarche tellement belle que j'en ai fait une association, parce que j'en suis sorti purifié. Je me suis dit, il y avait une vraie mission, quoi. Il y avait un vrai rôle. On s'adressait à des personnes humaines et on avait un peu plus le sentiment de les avoir convaincus. On s'est lavé de toutes les scories que peuvent porter les voyages, le temps perdu, l'inutilité de l'artiste quand il n'est pas sur scène, enfin toutes sortes de choses, quoi. Là, il y avait quelque chose de fort, de très très fort.
Finalement, cette première idée, chemin de musique, j'allais dire, s'est arrêtée en 2011. Mais en 2012, on vous retrouve aux Flâneries musicales de Reims. Ça paraît complètement naturel quand on entend votre parcours, Jean-Philippe Collard. Mmh. Ça vous a été naturel, finalement. Et vous y trouvez aujourd'hui une vraie joie de programmer. Le festival va avoir lieu dans quelques jours, 9 concerts. C'est une autre facette encore, de penser des programmes, d'être en veille aussi pour la jeune génération.
Oui. Oui, je change un peu de statut, là. Et en effet, enfin, d'abord, c'est mon territoire aussi. Alors, je retrouve avec joie des gens que j'ai connus, des lieux que j'ai connus, des lumières que j'ai connues quand j'étais enfant, puis cette région que j'aime tant, son produit phare, tout ça c'est un peu dans mes gènes, dans mon sang. Et puis alors il y a ce désir dont je parlais tout à fait, plutôt ce manquement dont je parlais au début, c'est-à-dire celui de ne pas avoir la capacité d'écouter la musique comme un amateur de musique. Et je retrouve aux Flâneries, je retrouve quand même des émotions vraies. J'assiste à tous les concerts, c'est ma règle numéro un. J'en programme en temps ordinaire, en année ordinaire, environ 50. Et j'assiste à tous, à chacun, de A jusqu'à Z. Je veux entendre tous les programmes, je veux entendre tous les artistes. Et j'arrive à me libérer de mon statut de pianiste et comme ça écouter la musique, écouter mes camarades dans des ambiances qui sont décrochées un peu du circuit traditionnel puisque Reims n'a pas de salle de concert. Donc on va dans des églises, on va dans des maisons de champagne, on va dans des lieux de patrimoine divers et variés, dans des édifices religieux. Et la musique prend tout son sens dès l'instant où il y a le minimum du confort acoustique. Et j'ai un plaisir fou, je vous dis pas que c'est pas un gros travail, mais à choisir, je suis obligé de choisir les artistes, malheureusement. Mais je le fais soit parce que je les connais, mais en tout cas toujours parce que je les aime. Et voilà, et c'est une récompense aussi arriver le mois de juin ou le mois de septembre cette année. De voir arriver instruments sous le bras, ces gens qui viennent, et puis je les aide jusqu'au moment où ils vont sur scène, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, qu'ils soient heureux dans la ville. C'est une autre façon de faire de la musique, de la partager. Et puis surtout, je parle avec les gens du public, et avant, après, ce qu'ils en ont pensé, quels sont leurs désirs, et c'est très instructif d'avoir leur retour parce que c'est eux qui décident, hein, c'est pas moi. Donc, puis j'ai une équipe formidable là-bas, donc voilà, c'est un peu chez moi quand même.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Philippe Collard.
Vous avez aussi fondé en 2017 une école c'est quoi? C'est une académie de musique française?
Oui,
c'est à quelques encablures d'ici?
Oui, c'est juste à côté, oui. À l'école normale, oui. Bah, oui, l'idée m'est venue parce que j'étais un peu désespéré, je le suis toujours d'ailleurs, par l'uniformisation du piano mondial, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire, à bien observer les circuits par lesquels émergent aujourd'hui les jeunes artistes. Naturellement, on trouve sur leur route des concours internationaux. Et à bien y regarder, s'aperçoit que le répertoire est de plus en plus rétréci, comme s'il y avait un passage obligé pour gagner le bouclier, quoi. Donc, cette chose me fait un peu peur. Et quand j'ai vu que peu à peu le répertoire français disparaissait des programmes, et quand il disparaît des concours internationaux, ça veut dire qu'il disparaît de l'enseignement qui est proféré avant, dans les conservatoires, je me suis un peu alerté et voilà, et avec l'école normale et sa directrice, un beau jour je parlais de ce souci, on va appeler ça un souci parce que voilà, ça me plaisait pas beaucoup, elle a eu la gentillesse de mettre à ma disposition son école pendant les périodes de congés scolaires et puis d'y organiser une académie alors qui est entièrement dédiée à l'enseignement de la musique française pour piano. Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de perdre certaines valeurs liées à ce répertoire. On a un répertoire tellement considérable qu'on joue toujours les mêmes choses. Il suffit d'aller à l'étranger, de côtoyer des musiciens, ou que ce soit sur la planète, qui disent « vous avez une chance, vous avez des tiroirs remplis d'œuvres magiques, et il y a une école française, c'est de compositeurs extraordinaires ». J'écoute toujours ça, je dis mais ils ont bien raison, mais c'est toujours les mêmes, quoi, on joue toujours les mêmes trucs. Et puis surtout, on perd les moyens de la jouer, c'est-à-dire on joue tout comme si c'était autre chose, quoi. Donc on perd une, l'utilisation de ces compositeurs de génie, et deux, la manière de les jouer. Et la manière de les jouer, c'est la transparence, c'est de créer des sons, de la brume, d'attaquer le son de différentes manières, il pleut, il fait sec, tout est contenu dans le répertoire français. Il y a qu'à regarder Debussy, Ravel, ils sont inspirés par la nature comme c'est pas permis, et aujourd'hui on dirait qu'elle a disparu de l'esprit de tous ces exécutants. Alors, raison pour laquelle je me suis dit, on va mettre un petit coup d'accélérateur, bien modeste, à la musique française. Mais j'y tiens, je m'attache à ça, parce que j'aurais sauvegardé, enfin, je suis pas le seul, on est 15, hein, mais tout ce qui fait le ferment de la sonorité nécessaire pour jouer cette musique. On la joue pas comme... comme Rachmaninoff.
Qu'il y a chez vous vraiment quelque chose de l'ordre de la mission. C'est comme ça que vous le vivez aussi ?
Non, parce que non, je ne le vis pas comme ça, je le vis comme une nécessité de compléter. Peut-être je trouve ce métier trop aride, ou pas aride, je retire le mot, mais compte tenu des difficultés que j'ai exprimées un peu plus haut dans notre entretien, peut-être que ça ne me comble pas, c'est même certain. Ça ne me comble pas parce que il y a un déficit de ressources humaines terrible dans ce métier. On a beau s'escrimer, comme je l'ai dit, à vouloir transmettre pendant le concert, mais le concert ne dure qu'une heure, et après on se retrouve malheureux, mais vraiment malheureux, parce qu'il n'y a plus de son, plus d'image, plus rien, plus personne à qui dire si bémol, ou dire on va prendre un verre ensemble, et il faut que je complète, en fait, il faut que je complète. Donc c'est inhérent à ma personne. Je suis pas un homme qui a envie d'entreprendre plus qu'autre chose. Il s'est trouvé que sur ma route, il y avait des nécessités et puis des petites coïncidences comme ça. Et puis, ça, c'est vrai que j'en ai pas manqué une. Alors là, même quand j'étais petit, je savais faire. Et quand je vous parlais tout à fait au début de nos entretiens de mes facilités à jouer du piano quand j'avais 7 ans et demi, 8 ans ou 10 ans, c'est pas innocent non plus tout ça. C'est des choses qu'on capte, on sait qu'on a à l'intérieur de soi, on vit avec sa propre personne, on profite de ce que la création vous a donné. Et puis là, en l'occurrence, bah, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des chemins qui sont pas tout à fait classiques. Mais je le fais parce que le désir est trop fort. Et quand le désir est fort, bon, on sait pas ce que ça représente. On compte plus. On compte pas ses heures, comme on dit.
Serait devant vous comme une œuvre. Il y en a sur lesquelles on sent que vous avez tiré un trait en disant bon, ben celle-là ce sera jamais. Mais est-ce qu'il y en a parce que ce Granado, s'il est arrivé, il n'était pas forcément attendu. J'ai l'impression dans votre cheminement. Donc est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, quelques phares qui vous guettent et qui vous tiennent.
Écoutez, c'est pas exactement ce qui m'anime en ce moment puisque je vais faire un retour aux sources en forme de boucle bouclée. À savoir que je m'apprête à réenregistrer les 13 barcaroles de Fauré. Décision prise sur une route du Val d'Oise, un beau jour que je peux dire, c'est une petite anecdote privée, mais je le raconte quand même parce que c'est symptomatique. Nous étions, ma femme et moi, en route vers une grande surface, comme on dit, et incidemment, j'allume la radio et j'entends en son milieu la première barcarolle de Gabriel Fauré. Et on cheminait, il y avait du soleil, on n'était pas pressé. Et je me fais quelques réflexions que ma femme me capte en direct, bien que ça ne lui était pas vraiment destiné. Du genre, mais qui est-ce qui peut jouer comme ça? Et pourquoi ce changement de tempo? Puis là, c'est trop fort, qu'est-ce que c'est? Et puis il y a cette prise de son, oui, c'est pas d'hier, tout ça, oh, j'aime pas trop. Il y a des choses intéressantes, mais tout est à reconsidérer, quoi. Puis est-ce que c'est vraiment le son qu'il faut pour cette première barcarolle? Après, oui, ça irait mieux, bon. Bref, l'œuvre se déroule, et puis on arrive à son terme. Et à ma grande surprise, et à un coup de frein brutal, c'était moi. Et de ce jour, je me suis dit que... Il fallait recommencer, quoi. Thank you.
C'est avec la sixième des Barcarolles de Forêt que nous refermons ce portrait, Les Grands Entretiens, de Jean-Philippe Collard. Réalisation, Lionel Quentin. Prise de son, Georges Thau. Mixage, Pierre Monteil. Attaché de production, Flora Sternadel. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.